Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures de détente informative pour vous, d'un cruel pugilat pour eux. Chaque après-midi, les meilleurs journalistes d'Europe 1 s'affrontent au service de votre culture G. Comme dans Pékin Express, ils sont payés 1 euro par jour, d'où le niveau parfois inégal de leurs prestations. À l'issue de l'émission, un seul sera élu chroniqueur du jour, celui ou celle qui vous aura offert le sujet le plus captivant. À noter que perso, je ne suis pas en compétition, même s'il est déjà arrivé que de perfides présentateurs d'émissions d'aventure, par déformation professionnelle, déclarent à la fin de l'émission:
Mathieu, prenez votre sac, quittez le studio et rentrez chez vous.
Je le rappelle, moi, on ne peut pas m'éliminer. Bonjour Stéphane Rothenberg.
Bonjour, bonjour à tout le monde.
Ce soir sur M6, c'est le démarrage de la 13e saison de Pékin Express.
Oui, monsieur.
Émission culte. Et pour cet anniversaire, parce qu'on fête les 15 ans cette année de Pékin Express, trajet culte, des anciens candidats reviennent sur le tout premier tracé de Pékin Express en 2005.
Et oui, parce que Pékin Express s'appelle Pékin Express parce que la première année, nous avons fait le transsibérien Paris-Moscou-Pékin, enfin Moscou-Pékin en l'occurrence.
Sauf que vous n'avez pas fait le transsibérien dans les petits wagons sympathiques avec...
Avec le caviar.
Avec le caviar servi à la louche.
Non. Ils y sont allés en stop, on a suivi le parcours, on a pris un peu le train à un moment pour franchir la frontière avec la Mongolie. Mais oui, c'est là, et donc on n'était pas revenus, on avait fait Pékin-Bombay la deuxième saison. Mais voilà, là on refait le parcours d'origine un peu plus raccourci parce que c'est une saison anniversaire, ouais. Avec moins d'émissions, juste comme ça, pour marquer le coup, puis on revient cet été avec la vraie saison.
Alors Stéphane Rothenberg, oui. On va parler du retour de Pékin Express ainsi que de Top Chef que vous présentez également. Le temps de vous présenter mes aventuriers à moi. À mes côtés, il existe sur mon Instagram, Mathieu Noël très officiel, des clichés d'elle rebondissant sur de grosses boules rouges en forme de nibar géant dans une sorte de Pékin Express gaguesque, j'ai envie de dire, qu'on appelle Total Wipeout. Je vous invite à aller découvrir ces images ou les redécouvrir.
C'était moi aussi. Hein.
Si, et c'était vous aussi. Si par malheur vous aviez oublié l'existence de ce jeu télé.
Connard.
Oui, bonjour aussi Eva Roque.
Bonjour à tous, bonjour Stéphane.
Eva, vous êtes notre expert média, visiblement Vous avez payé de votre personne, hein, pour vous avez testé des choses.
Mais à chaque fois avec Stéphane, on est parti 3 fois à l'étranger ensemble et 3 fois j'ai payé de ma personne. Ouais.
Tout à l'heure, vous nous direz ce qu'on regarde et ce qu'on zappe ce soir à la télé. Alors Stéphane, Eva est hors compétition, comme les films qui n'ont pas un bon attaché de presse à Cannes. Mais je vous présente maintenant nos deux premiers compétiteurs du jour. Face à vous, chevelure maîtrisée, look dandy, regard focus. Dans Pékin Express, il tiendra à peu près 32 minutes, le temps d'appeler Europe Assistance. Le plus au sud qu'il soit jamais allé, c'est Porte de Châtillon. Je vous présente notre journaliste évoluant uniquement sur Moquette, notre spécialiste littéraire. Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour, et je passe pas la porte. Je reste intramuros, bien sûr.
Ah oui, évidemment, vous n'avez jamais franchi le palier. Voilà. Ça sera pour une prochaine saison.
Je vois le genre.
Vous voyez très bien le genre. Alors, aujourd'hui, vous franchissez justement un nouveau pas dans le fétichisme de salon en vous penchant sur l'odeur des livres. Vous êtes vraiment un type bizarre. Hein.
Ben oui, mais moi, Stéphane Rothenberg, ça me fait penser à Top Chef, où ils n'arrêtent pas de sentir les plats, etc. Et donc, moi, je me suis dit... Mais les livres aussi ont une odeur, et je vais vous le prouver.
Oui, c'est vrai, je suis d'accord.
Et j'ai beaucoup d'échantillons avec moi.
Et donc, une chronique hyper radiophonique en perspective, puisque vous avez apporté plein de livres que nous allons humer.
Je vais aussi vous expliquer pourquoi les livres ont une odeur.
Ah oui, quand même, il y aura quand même du fond.
Un petit peu.
À ses côtés, Stéphane Rothenberg, si j'osais une parabole automobile, vous qui avez chapeauté le magazine Turbo, je dirais que même, de même qu'au pays des aveugles, les bornes sont rois, au pays des Citroën Xantia, les Golf GTI sont reines. Elle est notre Golf GTI, notre reine.
C'est une
muflerie assumée. Indétrônable leader du championnat européen des journalistes, saluons Anne Le Gall, une championne redoutable qui a le don de crucifier un à un tous ses adversaires, mais...
Toujours avec le sourire.
Anne, vous êtes notre spécialiste environnement et aujourd'hui vous allez nous expliquer avec des conseils très concrets comment lutter contre le gaspillage.
Voilà, un sujet qui fleure bon, l'aventure et l'exotisme.
Oui,
on va explorer notre frigo et nos placards et on va savoir pourquoi il y a la moitié des Français qui ne savent pas lire les dates limites de consommation et qui ne savent pas que certains produits sont bons au-delà de la date.
Traitez nos auditeurs de cons directement, hein,
mais
je vous dirai rien.
Pas du tout, on va faire de la pédagogie.
Merci Anne, le programme est donné, l'équipe est sauvage, peut démarrer.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
C'est donc Stéphane Rothenberg qui nous accompagne cet après-midi pour fêter le retour ce soir sur M6 d'une émission d'aventure culte, on peut le dire, Pékin Express. J'avais tenté d'y inscrire Eva en 2016.
J'y vais, mais j'ai peur.
Elle n'avait pas franchi l'étape du casting. Là, c'est l'édition anniversaire, puisque ça fait 15 ans que Pékin Express existe. Pour cet anniversaire, vous avez donc décidé de rappeler 14 candidats emblématiques et de refaire ce trajet de Moscou à Pékin. Est-ce que vous vous souvenez, Stéphane Rottenberg, j'imagine que oui, de votre tout premier plateau en Russie, au milieu de la Place Rouge?
Oui, je m'en rappelle, d'autant plus qu'effectivement, à l'époque, les moyens de transmission n'étaient pas aussi élaborés qu'aujourd'hui, et donc on ne savait pas si les candidats allaient arriver.
tout simplement.
Mais oui, parce qu'on n'avait jamais fait le jeu, il n'y avait qu'un pays qui l'avait fait, enfin deux, ouais. et donc on les avait lâchés à la frontière avec l'Estonie et la Russie, à Pskov, et trois jours sans nouvelles, vraiment sans nouvelles. On avait vaguement une fenêtre de tir, on avait posté des assistants avec des talkie-walkie pour me prévenir de leur arrivée. Et entre les premiers et les derniers, on a attendu 5 heures, mais ils sont tous venus les uns après les autres. C'était fascinant. Et voilà, ça a démarré. Et le premier caméraman que j'ai vu, que je connaissais bien, avec qui j'avais fait plein d'émissions, a posé sa caméra après le dernier plateau, m'a regardé, m'a dit: Stéphane, ce que je viens de vivre pendant 3 jours est exceptionnel. Et je me suis dit, voilà, pour qu'un vétéran du métier après me dise ça, j'ai dit, ah, on tient peut-être quelque chose. Mais vraiment, au départ, on ne sait même pas s'ils vont y arriver.
Et
je crois me souvenir, on en avait déjà discuté, mais il me semble que sur l'étape en Russie, vous avez eu des problèmes de sécurité.
Pas mal, oui.
Et des problèmes, et plus rigolo, des problèmes d'alcoolisme. Enfin, plus rigolo, je suis pas sûr d'ailleurs.
Oui,
mais...
bon, je dirais pudiquement que c'est la Russie, mais c'est vrai que non, mais alors, et je sais que j'adore la Russie, mais c'est vrai qu'en Russie, il y a une tolérance fascinante sur la conduite en état d'ivresse.
Mais là, donc les candidats faisaient du stop, donc montaient dans des voitures qui potentiellement étaient conduites par des gens bourrés.
Des Russes, ouais.
Tout simplement, des Russes. On passe la deuxième tranquille, la troisième, un petit coup de vodka.
Ouais, non, mais c'est bizarre, je sais bien que ça fait choquer, mais il y a une forme de culture, mais il fallait sélectionner.
Mais
voilà.
Juste une question sur les assurances, parce que j'imagine que les assurances doivent coûter cher sur cette émission.
Oui, non, mais oui, bien sûr, faut faire attention. Mais vous savez, en Amérique, finalement, les États-Unis, ouais. Ça a été peut-être un des pays les plus compliqués pour travailler. Oui, parce que les shérifs nous disaient, mais vous savez, les gens, lorsqu'ils vont voir, c'est dans le sud des États-Unis, ils vont voir des gens arriver en sac à dos, frapper à leur porte, ils peuvent tirer.
Sortir le fusil.
Et finalement, ils
auront le droit dans certains États.
Mais ils avaient le droit. Tous les États où on était, ils avaient le droit.
Faire une émission de radio avec seulement 1 euro par jour, c'est déjà dur, on connaît. Mais relier Moscou à Pékin, jeudi chapeau, Pékin Express est de retour ce soir sur M6. Stéphane Rottenberg est avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, c'est un homme aux nombreux vices. On en connaissait déjà certains à force de bosser avec lui, notamment son fétichisme du susurrement. Quand il est un peu tard, vous êtes coincé tout seul avec lui dans un studio obscur et qu'il vous dit:
j'aime qu'on me susurre dans le casque.
Oui, d'accord, je vais faire un teasing en susurrant, mais laisse-moi sortir du studio. L'inquiétant Nicolas Carreau nous parle aujourd'hui de l'odeur des livres, une odeur qui recèle des secrets. A tout de suite.
Europe 1, 16h-18h.
L'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h.
Mathieu Noël.
Comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire, vous écoutez L'équipe est sauvage, l'émission la plus éprouvante depuis Pékin Express. 2 heures d'une guerre fratricide opposant les meilleurs journalistes de la station au profit de votre bonne humeur et de votre savoir. Un seul ressortira d'ici une couronne sur la tête. Pour ça, il faut avoir la niaque, la win, l'énergie, bref, tout ce qui fait défaut à Nicolas Carreau, notre éminent spécialiste littéraire. Snobant avec mépris l'esprit de compétition de ses collègues, Nicolas Carreau devait penser naïvement que son seul talent suffirait à le propulser premier du championnat européen.
J'avoue.
Résultat, il est 9e. Et alors qu'il réalise que la direction va peut-être prendre en compte le classement dans l'équipe sauvage au moment des revalorisations salariales, il commence à réagir. Premier signe positif, désormais dans son émission du samedi, La Voix est libre, il secoue ses libraires un peu mous ou qui, disons, n'avaient pas vraiment le sens du show.
On me fait saluer les libraires enthousiastes parce que maintenant ils se foutent de ma gueule dans l'autre émission de Mathieu Noël, tu sais, où ils récupèrent des sons quand on enregistre.
On est dépressifs, on est des lecteurs.
Salut les libraires.
Bonjour Nicolas.
Salut Nicolas.
Voilà.
Voilà, les progrès sont effectivement fulgurants. Hein.
C'est
showtime
le week-end.
Nicolas Carreau, quel sujet avez-vous dégoté pour séduire nos auditeurs aujourd'hui?
Oui, alors on me demande parfois comment je choisis les livres dont je parle. Alors, il y a la couverture, bien sûr. Il y a le pitch, la quatrième de couverture. Il y a l'auteur, bien sûr, l'éditeur, mais... l'odeur des livres, ça compte aussi, tout le monde le sait, les livres ont une odeur, elles sont plus subtiles qu'il n'y paraît.
Mais d'où vient l'odeur des livres? Et surtout, ça marche pour les livres neufs, votre truc?
Alors, ça marche pour tout. J'ai fait quelques recherches. Il y a assez peu d'études sur le sujet, faut bien admettre.
Mais étonnamment.
Là, j'ai trouvé un article qui en parle sur papetier.news.
il y a quand même le degré de folie, quoi. Le mec va sur papetier.news.
Très bien documenté, cela dit. Qui cite une étude d'un chimiste britannique qui s'est penché sur la question. Alors, ces odeurs ont plusieurs sources. Le type de papier utilisé, bien sûr, et les produits chimiques qui vont avec. La lignine, par exemple, qui donne au papier plus ou moins de rigidité, et la cellulose, mais aussi la colle et les différents types d'encre.
Mais il y a l'âge du livre aussi, non?
Absolument, c'est lié au fil du temps. Les produits chimiques se dégradent et donnent différentes odeurs. La lignine se transforme en acide et décompose la cellulose, nous dit l'étude. C'est d'ailleurs le même processus qui rend le papier jaune.
Plus le papier est de bonne qualité, moins il contient de lignine, mais ça ne veut pas dire que son odeur est meilleure. Il y a d'autres composés qui expliquent là pourquoi il y a des parfums d'amande, par exemple. Ça, c'est à cause de la colle. Benzaldéhyde. Ah, il y a de l'éthylhexanol aussi, qui apporte une note florale, ou encore l'éthylbenzène, qui complexifie encore un tout petit peu l'odeur des livres.
Dans deux jours, on n'a plus le droit de lire des bouquins parce qu'il y a trop de produits chimiques dedans.
Quoi. Vous allez créer un scandale sanitaire.
On va nous jeter tous ces bouquins. Alors bon, j'ai pas la confirmation scientifique, mais il y a aussi, selon moi, l'effet Madeleine de Proust, c'est-à-dire une odeur qui vous renvoie un souvenir. Et l'inverse fonctionne aussi, c'est-à-dire que si vous avez lu un livre quand vous étiez gamin, en vacances, pendant que votre grand-mère cuisinait des caramels ou que votre grand-père fumait un cigario, il est possible qu'en relisant le même livre, y compris dans une autre édition, votre cerveau vous restitue l'odeur de l'époque.
Alors, vous avez apporté des échantillons.
Bien sûr, j'ai plusieurs choses. J'ai du livre neuf, j'ai du quarto, c'est léger, si vous voulez essayer,
pour
Stéphane.
Renifle, hein. Voilà.
Je vais essayer, mais le quarto, vous allez voir, c'est subtil, mais ça fait du bien, c'est neuf, c'est du neuf.
Le mec, il sniffe les bouquins.
Alors, je vais oser une comparaison triviale, mais ancien journaliste automobile, les automobiles ont une odeur à l'intérieur. Et je peux vous dire qu'une Citroën ne sent pas comme une BMW ou comme une Honda. Et moi, journaliste automobile, on pouvait me bander les yeux et me rentrer dans une voiture, j'aurais pu vous dire la marque de la voiture sans aucun problème.
Ça, c'est fort.
Alors, les voitures japonaises ont à peu près la même odeur. Mais c'est saisissant.
Peugeot et une Renault, c'est pas.
Mais c'est le cuir. C'est le cuir ou le.
C'est plein de choses. Non, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément du cuir. Non, c'est fascinant.
Et c'est
un peu moins vrai maintenant. Mais alors, jusque dans les années 90.
Là, regardez, c'est deux Gallimard, donc même éditeur, mais collection blanche et collection la noire. Vous allez voir que ça n'a rien à voir.
Donnez-moi moi aussi ce que je fais.
Alors, j'ai du beau livre aussi. Du beau livre ou du MOOC.
Là, il y a du papier glacé.
Ça sent très bon le MOOC.
Ça m'a pas sauté au nez.
Il y a beaucoup d'illustrations.
Ça sent bon le papier glacé.
J'ai un petit Tom Sawyer là d'un éditeur indépendant qui a 3 ans.
Ah ouais.
Ça c'est intéressant
alors,
parce que c'est
le Flammarion
Stink
un peu
du sud. Et donc
il parle plus fort, d'accord.
J'ai des épreuves, pour les connaisseurs.
Ça c'est une odeur très particulière. Une odeur de thé presque.
J'ai des épreuves, c'est pour les connaisseurs, parce que c'est de la colle de basse qualité, ce que c'est vite fait.
Ah, un peu de colle.
J'ai de la Pléiade, mais non vieillie.
Alors, celui-là,
de la
Pléiade il a 30 ans, celui-là.
La Pléiade.
Alors, ouais, attention. Ça, faites attention, c'est ma collection personnelle.
Ça, c'est votre.
C'est l'équivalent du Gévrey-Chambertin 82. C'est du livre de poche vieilli, jauni, de maison de campagne.
Ouais.
Et alors, ça, santé, c'est.
Je sens.
C'est magnifique.
Votre
ça
maison
sent
de campagne.
Le sous-bois, les champignons, tout ce qu'on veut.
Effectivement. Et le moisi, tout simplement. Le moisi, effectivement.
C'est des livres de poche vieillis, ils ont au moins 15 ou 20 ans ceux-là, c'est vraiment pour les connaisseurs. Et alors, bon, j'ai le Graal, hein, un livre ancien, début 20e, j'ai le nôtre, ouais, écoutez, regardez, sentez-moi ça, ça a un siècle.
Ça a un siècle, ouais. Attends, c'est très précieux, Eva, faites attention.
Je trouve que c'est celui qui a le moins d'odeur.
Oui, mais parce qu'il est beaucoup plus subtil, mais il faut vraiment s'approcher. Il faut vraiment
j'ai
se plonger
de
dedans.
C'est ça.
Alors, non, évidemment,
c'est pas
ce que je voulais cette chronique est à retrouver en odorama.
Oui,
sur
c'est ça, c'est que je suis en train de manger.
Ça, c'est un livre audio, puisque... santé.
Santé, un livre audio.
Santé, ça n'a pas l'odeur.
Ça, j'apprécie. La tentative de piège d'Evaroc à la fin de la chronique
mais
pour l'humilier.
C'est que j'ai eu un doute.
J'apprécie. Les amis, on vous invite chez vous à vous tourner vers votre bibliothèque et à sentir tous vos livres. Vous verrez qu'effectivement, les effluves sont très différentes. Merci Nicolas Carreau pour ce moment poétique et un peu surréaliste aussi. Votre chronique aura-t-elle séduit nos auditeurs? La réponse tombera vers 18h.
Europe 1.
Normalement, la séquence qui vient est mon interview face à face avec l'invité. Une séquence où, logiquement, comme je l'explique toujours à mes étudiants en journalisme, les bonnes réponses adviennent à l'issue d'une bonne question. Une seule corde manque à votre arc, une comédie musicale. Vous qui adoriez les comédies musicales quand vous étiez petite.
C'est pas vrai. Ça me gonfle un peu. J'aime pas trop la comédie musicale. Non, non.
Bon, alors, aujourd'hui, sachant qu'elle a couvert Pékin Express 2 fois, je pense que c'est Evaroc qui va poser le plus de questions à Stéphane Rothenberg. On se retrouve juste après Christine and the Queens, People I've Been Sad sur Europe.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures pour délasser vos zygomatiques et muscler vos neurones, en compagnie des plus beaux athlètes de la rédaction d'Europe 1 qui s'affrontent chaque après-midi au service de votre culture G et sous l'œil d'un invité arbitre parfois dur.
Je suis pas venu ici pour qu'on se fasse des toutouches sous la douche, t'as de con.
Mais toujours juste, aujourd'hui Stéphane Rothenberg est avec nous pour le retour ce soir sur M6 de Pékin Express, 13e édition. Et c'est une info que j'ai découverte hier dans un SMS qu'elle m'a envoyé, avec d'ailleurs un beau lapsus, je vous le cite, ce message d'Evaroc. Pour info, sache que j'ai été 2 fois sur Stéphane Rothenberg dans Pékin Express. Alors, rassurez-nous Stéphane, elle a voulu dire sur Pékin Express avec Stéphane Rothenberg. C'est bien ça. Hein.
Écoutez, je ne me passerai de tout commentaire et je vous laisserai imaginer tout ce que vous voulez.
Alors, Eva, racontez-nous, qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Non, mais c'est surtout Stéphane qui doit raconter parce que, en fait, l'équipe de production avait invité quelques journalistes. On a fait l'édition au Cambodge, une des éditions au Cambodge, et puis une dans un pays magnifique qui était la Tanzanie. On a fait un trek au Kilimandjaro. Et moi, j'avoue que j'ai une fascination pour cette émission, notamment pour le côté organisation, parce que c'est vraiment une caravane. On parle souvent de la caravane Tour de France.
C'est combien de personnes ?
Mais voilà, vous êtes
120.
Combien ? 120 personnes. 120 ouais. personnes.
Ouais, au début, après, on est 80 quand il y a moins de candidats, mais oui, ouais. c'est du monde. Ouais. En fait, la plupart des émissions d'aventure sont fixes. Et les seules émissions itinérantes loin sont des. C'est Échappée Belle, c'est En Terre Inconnue, c'est toutes petites équipes. Il n'y a aucune émission au monde qui est à la fois une très grosse structure type Prime, 120 personnes, ouais. et qui bouge tous les jours. C'est la seule au monde. Et ça pose des difficultés, bien sûr, logistiques absolument énormes.
Et puis il y a des héros dans cette émission, parce qu'on parle beaucoup des candidats, mais les cadreurs, c'est-à-dire les gens, les techniciens qui suivent les candidats, c'est des athlètes de haut niveau, on peut le dire. Hein.
Ouais, non, mais c'est pas évident. Ils font la course avec eux, ce sont les seuls qui les suivent vraiment, qui sont au contact. C'est passionnant pour eux, ils adorent le faire. Hein, mais effectivement, c'est extraordinairement complexe. Ils sont les premiers garants de la sécurité des candidats, parce que c'est eux qui peuvent éventuellement sentir une situation un peu compliquée. Et ils ont effectivement 12 kilos sur l'épaule. Saison en saison, on essaie de les convaincre de prendre des petites caméras, ils veulent pas.
Et pourquoi ils veulent pas ?
Alors, ils vont vous expliquer que les grosses optiques, l'équilibre sur l'épaule, c'est beaucoup mieux que les petites caméras qui vous cassent le dos, etc. Donc, ils seraient mieux dans une voiture. Parce que dans la voiture, ils n'arrivent pas à rentrer. Quand ils rentrent avec la caméra, ils sont super mal positionnés. Mais ils considèrent que sur l'ensemble de la journée, ils seront beaucoup mieux avec cette grosse caméra. Et puis, il y a aussi le prestige du caméraman. Tout le monde aujourd'hui a une petite caméra ridicule.
Là, on voit que c'est des pros, quoi.
Voilà, là, on voit que c'est des pros. Mais je pense qu'ils ont tort. Mais les faire changer d'avis, c'est pas facile.
Mais d'ailleurs, vous disiez, on les voit dans la voiture avec les candidats. Ça veut dire que quand les candidats font du stop et qu'ils demandent à monter dans le véhicule, il faut qu'il y ait 3 places au minimum.
C'est la contrainte, voilà, c'est la seule contrainte. C'est effectivement, il faut, si le caméraman ne peut pas monter, vous ne pouvez pas prendre la voiture. Voilà. Et ce qui pose plein de problèmes, parce qu'il suffit qu'il y ait une famille à bord, etc. Ouais. Donc les candidats sélectionnent.
Pékin Express redémarre ce soir sur M6. Et Eva, qui a couvert ce jeu d'aventure, le sait, dans Pékin Express, il ne faut pas avoir peur d'y aller.
Même avec la langue. Hein.
Bien sûr, Stéphane Rosenberg est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, elle est la caution verte d'Europe 1. Actuelle leader du championnat des journalistes, Anne Le Gall sait que pour conserver la pole position qui est la sienne, elle doit se surpasser. Ce qu'elle fait à chaque fois, en nous livrant des infos exclusives au prix d'enquêtes qu'on imagine parfois complexes, comme celle qu'elle avait dû effectuer en amont sur les oiseaux et les éoliennes, pour réussir à nous sortir une statistique aussi étonnante que celle-ci.
Les éoliennes, c'est un problème pour les volatiles.
Alors, les éoliennes, ça tue 6 à 7 oiseaux par an par machine. Donc, ça tue beaucoup moins d'oiseaux que les lignes à haute tension. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que la chasse. Donc, en fait,
oui, ça tue.
Et oui, Stéphane Rottenberg, c'est dingue, mais les éoliennes tuent moins d'oiseaux que les chasseurs. Vous l'aurez appris sur Europe 1 et vous le répéterez. Alors imaginez-vous ce que vous allez apprendre aujourd'hui si je vous dis qu'Anne va nous parler du gaspillage alimentaire. Je suis sûr que comme Michel Sarran mercredi dernier, vous vous dites...
Ça risque d'être long, moi.
À tout de suite.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipée sauvage. L'équipée sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, 2 heures à l'intersection du journalisme et des jeux du cirque. Dans l'arène du studio Coluche, 4 gladiateurs bien huilés, prêts à toutes les bassesses pour l'emporter.
Ça t'ennuie de te pencher, de me ramasser ma savonnette.
Un seul sera élu chroniqueur du jour, mais qui ? Peut-être une fois de plus la terreur du championnat. Sous l'œil forcément admiratif de notre invité Stéphane Rottenberg, Anne Le Gall, Terminator Le Gall, s'avance vers le micro. Chacun de ces sujets fait mouche. Son seul et unique talon d'Achille, son obsession pour les jeux de mots foireux qui, au moment du quitte ou double en fin d'émission, peut dissuader l'invité de voter pour elle, comme Mélanie Douté la dernière fois.
Alors moi j'ai pris la défense des éoliennes et j'aimerais bien ne pas me prendre un vent.
Pas mal.
Anne, aujourd'hui, si vous arrivez à réfréner vos pulsions humoristiques, vous avez un boulevard avec un sujet dans lequel on va tous se retrouver.
On a tous des problèmes pour lire les dates de péremption.
Surtout les œufs.
On va parler des œufs. Juste quelques chiffres un petit peu pour que vous sachiez que les dates de péremption sont à l'origine de 20% du gaspillage alimentaire en France. Je sais que Top Chef met l'accent cette année sur la lutte contre le gaspillage, sur le zéro déchet. Donc, on va être dans cette lignée-là. Donc, comment faire pour bien lire les dates ? Il y a un Français sur deux, 53% précisément des Français, qui ne savent pas, par exemple, la différence entre une DDM et une DLC. Est-ce que vous la connaissez, cette différence ?
C'est date limite de péremption et date limite de... je ne sais plus le terme.
Voilà, mais en fait, la DLC, c'est la date impérative, date limite de consommation.
Après ça, il faut vraiment le jeter
ou... Ça, il faut vraiment jeter. Ouais. Ça concerne en général DLC. Le poisson, la viande, ouais. Tout ce qui a un risque bactériologique. Donc, après la date, effectivement, il y a un risque d'intoxication. La DDM, c'est ce qui correspond à consommer de préférence avant. C'est la date de durabilité minimale. Là, il n'y a pas de risque à consommer le produit après la date. En général, ça concerne des produits sans risque bactériologique, des produits secs et tous les produits qui ne périment jamais. Il y en a des produits qui périment jamais. Vous en connaissez ?
L'alcool. Autant pour moi.
Le chocolat.
Le chocolat, on peut le consommer 2 ans après la date, après la DDM. Voilà les assaisonnements. Alors, il y a le sucre, le sel, le miel, les épices qui peuvent perdre un petit peu leur saveur, mais qui ne présentent pas de risque pour la santé. L'huile, effectivement, elle peut. Le goût peut s'altérer un petit peu. L'eau. Il y a les farines, les pâtes, le riz, tous les produits secs, les produits lyophilisés.
Tout ça, on se fout de la date.
Tout ça, on peut les consommer après la date. Alors, là encore, il faut utiliser son nez éventuellement, parce que si le paquet, enfin si l'odeur vraiment est suspecte ou le paquet est bombé, l'emballage abîmé, il y a peut-être des insectes qui ont élu habitat dans la boîte, donc là on jette effectivement, mais on peut les consommer. Le chocolat peut blanchir un petit peu, mais il n'y a pas de problème pour le consommer, pas de problème pour la santé.
Et alors pour les yaourts, les fromages et les œufs, c'est qui me tiennent à cœur, les œufs, on fait comment?
Alors les œufs se conservent en général 3 semaines, pas forcément au frigo d'ailleurs, ils se conservent 3 semaines.
Ah, déjà, ça
si on a un doute sur leur fraîcheur, il y a quelque chose d'hyper simple. On met l'œuf dans un récipient d'eau et là il coule, c'est cool. On peut le consommer.
Et bien, pas forcément au frigo. Pas au frigo. Sinon, c'est un drame pour la cuisson.
Mon cœur saigne. On ne met pas les œufs au frigo.
Non, normalement, on ne les met pas au frigo.
Bons, surtout.
On les met pas.
C'est galère à cuire.
Après, s'ils ont été au frigo, il ne faut pas rompre la chaîne du froid. Donc, s'ils ont été à un moment au frigo, il ne faut pas les sortir.
Ah, d'accord.
Mais normalement, ça ne se conserve pas au frigo.
Revenez à votre petit moyen mémotechnique.
Voilà. L'œuf coule. C'est cool. On peut le manger. L'œuf flotte, c'est foutu.
Mais l'œuf flotte. L'œuf flotte, c'est foutu. Comment il peut flotter?
Voilà. Et pourquoi flotte-t-il? Parce que la coquille est poreuse et que l'air a pu passer à travers. C'est pour ça qu'il flotte et il n'est plus propre à la consommation. Et tout œuf dont la coquille est abîmée en général, fêlée, il faut le jeter de toute façon. Donc ça, c'est un petit moyen mnémotechnique. Pour les yaourts, autre question, il y a une date et normalement il faut la respecter. Alors là, non.
Alors cool, là, c'est cool.
C'est très...
on ne peut plus le manger, mais on sait qu'il était bon.
Alors là, il y a 60 millions de consommateurs qui ont fait une étude très, très précise sur la bactériologie du yaourt. Et en fait, 3 semaines après la date, on peut consommer un yaourt sans risque.
3 semaines après la date de péremption.
Absolument.
Mais sauf que psychologiquement,
c'est
pense
dur,
qu'on
est
un paquet à ne pas pouvoir le faire, ça.
Alors, si vous le faites, il n'y aura même pas de différence au goût, puisqu'ils ont aussi testé le pH, donc l'acidité du yaourt. Et en fait, c'est quasiment pas modifié. Ça fonctionne pour les yaourts nature, pour les yaourts aux fruits, pas pour les desserts lactés. Donc 3 semaines après la date, on peut le consommer, sauf si l'emballage est bombé. Là encore, s'il y a une odeur suspecte, il faut aussi se fier à ses yeux et à son nez. Enfin, tout ça confirme en tout cas que les industriels ont des progrès à faire sur la pédagogie, sur les dates de consommation. Ce sont eux qui fixent les dates et on pourrait améliorer les choses.
Stéphane Antemer, vous m'avez l'air doué en cuisine, là, le truc sur les œufs, là,
tout.
Vous m'avez bouché.
Non, mais pour ça.
Des formations professionnelles de top
chef.
Non,
mais pour ça, en revanche, je fais confiance à. Je reconnais que je ne les regarde jamais. Je fais confiance à mon nez, mon odorat,
mon
goût. Et c'est vrai que mais je reconnais que dans la famille, je vois beaucoup de choses partir à la poubelle, alors qu'effectivement. Mais moi, non, je goûte. Bêtement, empiriquement.
Moi, je me fais engueuler, mais tous les soirs. Si elle voit dans la poubelle un truc qui est pas trop vieux, je me fais déchirer à chaque fois.
On jette 7 kilos d'aliments emballés. C'est quand même triste. Alors, et puis, il faut se dire qu'avant, quand on achetait tout à la coupe, chez le traiteur, à la boucherie, etc., on se fiait à son nez. Il n'y avait pas de date sur le jambon. Alors, le jambon, c'est 3 jours normalement au frigo.
Le jambon cru, qu'on achète. C'est pas 3 jours.
Non, mais voilà, mais le jambon cuit blanc qu'on achète chez le charcutier, voilà, c'est 3-4 jours. Et puis on se fie effectivement à son nez pour le garder. Il n'y a pas de problème.
Faites-vous confiance.
Et faites confiance à Anne Le Gall, la confiance verte d'Europe 1. Merci Anne, votre chronique mérite-t-elle 3 points? Eh bien, nous le saurons peu avant 18h.
Europe 1.
Elle a donc accompagné Stéphane Rothenberg sur 2 éditions de Pékin Express au Cambodge et au Kilimandjaro. De beaux souvenirs, n'est-ce pas, Eva?
Moi, j'ai pleuré.
Et pourtant, le pire est à venir pour Eva Rock, le quiz qu'il oppose chaque jour à notre invité sur une thématique qui ne lui laisse aucune chance. Aujourd'hui, nous jouerons à qui connaît le mieux la Chine. Et vu les remarques finaux d'Eva avec Jean-Louis Aubert dernièrement, je dirais que Stéphane part avec une longueur d'avance.
C'est les Chinois qui disent que ça a des vertus aphrodisiaques notamment et des vertus thérapeutiques.
Mais en plus, ça doit être une connerie, comme la corne de rhinocéros, c'est comme...
T'as essayé?
Parce que Jean-Louis, il a essayé, il peut te dire.
Non, parce qu'il ne faut pas la mettre en poudre. Hein. Bon, pardon, excusez-moi.
Oh mon Dieu.
Vous apprendrez à mieux connaître la Chine avec le quiz.
Europe 1, l'équipe est sauvage. 16h-18h. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël. Abnégation, dépassement de soi et ivresse de l'aventure, telles sont les valeurs communes à Pékin Express, de retour ce soir sur M6 et à l'équipe sauvage. Et c'est Stéphane Rothenberg qui arbitre cet après-midi le grand tournoi des meilleurs journalistes d'Europe 1. Ce soir donc, nouvelle édition de Pékin Express, première étape, la Russie. Fascinante Russie. Et surtout, fascinant décalage de budget entre M6 et Europe 1. Alors, en Russie, on l'a dit, la vodka coule souvent à flot. Est-ce qu'il est déjà arrivé, Stéphane, au cours de ces saisons, que des candidats manquent à l'appel suite à une nuit un peu trop agitée et festive, avec des locaux?
Non, en revanche, ce qui a pu arriver, alors encore une fois, on ne sait pas, hein, mais c'est que, vous savez, le caméraman s'en va lorsque les candidats vont se coucher. Et il les retrouve au petit déjeuner. Et il a senti qu'il y a une ambiance différente. Il s'est passé un truc.
Des rapprochements.
Mais quoi? Alors, bah, parce qu'il y a le au revoir, on filme le au revoir, c'est normal. Et parfois, on a senti, parfois même les téléspectateurs se sont rendus compte, des au revoir plus chaleureux que ce qu'on pouvait s'imaginer au départ. Et donc voilà, mais ça...
Je sens que vous avez envie de retourner sur mes candidates.
On ne filme pas passer 21 heures. Quoi.
Est-ce que vous, personnellement, parfois, on imagine que c'est compliqué un tournage comme ça, vous avez dit le nombre de gens qui sont mobilisés. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, cette saison, c'est sûr, c'est la dernière, c'est trop galère, trop compliqué à gérer,
Les trois quarts du temps.
Ah oui, il y a toujours quand même des grosses galères.
Oui, parce que en fait, il y a une telle... Et à la fois, c'est galvanisant, puis effectivement, il y a des vraies tensions. Et puis régulièrement, quand on rentre, déjà, on est toujours content de rentrer. Et en fait, c'est un petit peu comme les... Pardon, la comparaison est un peu flatteuse, mais comme les marins en long cours, ils ont hâte on se demande qu'est-ce qu'ils foutent, qu'ils n'arrêtent pas de parler du retour à la maison. Ils sont tout le temps en disant, j'ai hâte de rentrer, qu'est-ce qu'ils foutent en mer à traverser, etc. Et puis lorsqu'ils sont à terre, ils passent leur temps à penser à repartir. Et ben nous, c'est pareil.
C'est comme ça. Moi, souvent, quand je regarde Eva Rock, je me dis aussi, c'est trop galère, cette saison sera la dernière. Et puis finalement, on remet toujours le couvert. C'est l'heure du quiz. Stéphane Rothenberg pour le quiz du jour, le thème s'est imposé de lui-même. En hommage à Pékin Express, voici un vrai faux sur le thème de la Chine. Fascinante Chine, berceau d'une civilisation millénaire qui déjà à l'époque des Wen. Bref, on a compris. Une bonne réponse, un point, c'est parti. Eva Rock, le Tongzidan est une brioche chinoise préparée avec du lait maternel humain. Vrai ou faux?
Je crois que vous ne le prononcez pas très très bien, d'ailleurs.
C'est possible, je m'en excuse.
Mais c'est vrai.
Eh bien c'est faux. C'est une recette encore plus sympathique. Le Tongzidan, ce sont des œufs bouillis dans de l'urine de jeunes garçons vierges.
Oh,
selon la médecine chinoise, Eva, ce mets améliore la circulation sanguine. Bon appétit, bien sûr.
C'est une formidable médecine.
Oui,
mais formidable.
Est-ce que vous avez tout goûté? Je ne suis pas sûr, Stéphane. Stéphane Rothenberg, voici trois inventions.
Oula.
Laquelle n'est pas chinoise? Le vernis à ongles, le football ou la fermeture éclair?
Ah, j'aurais dit les trois, moi, déjà. Donc,
moi, je me serais planté, alors, de toute façon, clairement.
Bah, le réflexe, c'est le football, mais on va se méfier. Fermeture éclair.
Bonne réponse. Alors, j'aime bien cet invité, parce que l'invité gagne toujours, je truque le résultat. Mais là, quand l'invité gagne vraiment, c'est encore mieux.
J'ai besoin de truquer. Double point, c'est ça, parce que...
La fermeture éclair est suisse. 1925, les plus vieilles traces de vernis à ongles ont été retrouvées sous la dynastie Ming en 3000 avant Jésus-Christ. Et la FIFA a reconnu officiellement en 2006 que le foot venait du Tsushu.
C'est
un
dingue.
Jeu de balle au pied qui se pratiquait en 2500 avant Jésus-Christ. On pouvait d'ailleurs y jouer avec du vernis à ongles puisqu'il avait été inventé 500 ans avant. Vous suivez. Eva Rock, Stéphane Rothenberg, vous répondez tous les deux. Que peut-on trouver en France qui rend hommage à la Chine? Trois propositions. Une place Deng Xiaoping à Montargis, dans le Loiret. Une rue Jackie Chan... une rue Jackie Chan à Deauville, en Normandie. Ou une impasse Confucius dans la ville d'Angoisse, en Dordogne.
Eh ben, moi, je prends Jackie Chan à Deauville.
Vous, vous prenez Jackie Chan. Très bien, ça fait pas... ça démontre votre grande faculté de déduction.
Ouais. Confucius avec une impasse, ce serait tellement terrible.
Ah, ça serait...
Et Angoisse.
Confucius, une impasse à Angoisse, je ne sais pas.
Deng Xiaoping, c'est quand même incroyable. Qu'a dit Montargis?
Montargis.
Oh, là aussi, c'est quand même... Parce que Deng Xiaoping, pourquoi pas? Avec, bon, non... Jackie Chan sera que du festival film américain, mais pas une rue quand même. Allez, la troisième. Mais ça n'a aucun sens.
Alors donc, c'est votre réponse à la troisième?
Bien, passe, mais j'oserais pas si j'étais maire.
Mais vous auriez osé une place Deng Xiaoping?
Bah, oui.
Et oui, c'est la bonne réponse. Oui, quel génie, c'est Stéphane Rothenberg. Il a réponse à tout. La place Deng Xiaoping à Montargis. Et oui, c'est un rond-point qui rend hommage à celui qui a été numéro 1 de la République populaire de Chine de 78 à 92. Il avait notamment.
Enrichissez-vous.
Enrichissez-vous.
C'est lui qui a dit ça.
Ça, c'est un de ses slogans.
Tout a basculé. C'est lui qui a fait que la Chine est devenue riche, opulente.
Et capitaliste, sans le dire.
Voilà.
Et il a aussi dit, ça c'est pas mal aussi, lorsqu'on ouvre la fenêtre pour changer d'air, l'air frais pénètre ainsi que les mouches. Et ça, c'est très profond.
comme réflexion. Stéphane Rothenberg, en Chine, Nong Yui laisse les scientifiques perplexes. C'est un petit garçon nyctalope, à savoir qu'il peut voir dans la nuit, vrai ou faux.
Oh, ça me paraît tellement dingue que j'ai envie de dire oui.
C'est vrai. Il est atteint d'une maladie appelée leucodermia. Ses yeux sont d'un bleu très clair et il voit la nuit. C'est le seul être humain au monde répertorié ayant cette capacité. Résultat, il est entré dans le livre des records, livre qu'il peut lire la nuit, du coup. Eva Rock, dernière question,
oui,
on va voir si vous pouvez marquer un
déjà
petit
perdu,
point.
Allez.
Dans les films chinois, il est interdit de montrer des scènes où l'on fait l'amour à plusieurs. Vrai ou faux?
Ah, j'étais en train de me passer toute la filmographie des films chinois que j'avais pu voir. C'est possible que ça soit vrai.
C'est très possible, hein.
Ouais.
Mais sauf que c'est faux.
Ah ouais.
Par contre, les films avec des voyages dans le temps sont interdits. Retour vers le futur n'a jamais été diffusé en Chine. L'interdiction date de 2011.
Et ma réponse était idiote parce que dans l'Empire des Sens, par exemple, ils sont à plusieurs.
Oui, mais ne soulignez pas trop ceci, effectivement, puisque là, je crois que vous avez fait chou blanc.
Oui, complet.
Et c'est évidemment Stéphane Rothenberg qui remporte notre quiz. Ce soir, M6 réveille l'aventurier qui sommeille en vous. Alors Eva, chaussez vos Rangers.
Même l'odeur, c'est compliqué.
Oh, mais non. C'est le parfum de l'aventure, ça. Pékin Express redémarre. Stéphane Rothenberg est avec nous jusqu'à 18h. À suivre, à l'heure du numérique, on aurait pu les croire foutus, pas du tout. Les jeux de société ont le vent en poupe. Un salon international vient de se tenir à Cannes. Quelles en sont les nouveautés? À quoi ressemblent les nouveaux jeux tendances? Comme disait Jean-Pierre Marielle, qui aimait beaucoup les jeux de société.
On va se faire une jolie petite partie. Garçon, fille, de genre mélange.
Ah ouais, j'aime bien ce jeu-là. On se retrouve juste après Lewis Capaldi. Before You Go sur Europe.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h.
Mathieu Noël.
Nous sommes toujours en compagnie de Stéphane Rothenberg pour le retour sur M6 ce soir d'une nouvelle saison de Pékin Express. Au fait, Stéphane, est-ce qu'il existe un jeu de société Pékin Express?
Il a existé un jeu vidéo.
Vidéo?
Oui.
Vous étiez dedans? C'était vous le personnage?
Oui, j'avais un petit
c'est bon, ça.
Mais c'est très vieux et je pense qu'aujourd'hui... très vite, genre 2009-2010, je ne sais pas si ça va marcher très fort, mais...
Ah, il faudrait inventer en tout cas un jeu de société Pékin Express, car à l'heure du numérique, les jeux de société ont toujours la cote. Un salon international du jeu de société vient même de se tenir à Cannes. Bonjour Frédéric Michel.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors ce week-end, le Palais des Festivals était une vraie ruche. Des créateurs, des éditeurs et des joueurs du monde entier étaient rassemblés durant 4 jours pour découvrir les nouveaux concepts du moment. Et comme pour le Festival du cinéma, où l'on décerne la palme du meilleur film, il y a aussi une récompense pour le jeu de société de l'année. C'est l'As d'or.
Oui, et cet As d'or, ce sont deux frères, Axel et Adrien Essling, qui le décrochent. Alors Axel est maraîcher en Ardèche, Adrien est assistant social à Aix-les-Bains, rien à voir avec l'univers du jeu. Mais ce sont des passionnés, c'est en famille, qu'ils ont testé et développé leur jeu baptisé Oriflamme. Alors on est dans un univers fantastique, la Tolkien, vous devez prendre le pouvoir après la mort d'un roi sans descendance, à coups de cartes et de coups bas, ça je suis sûr que ça vous plaît. La partie se joue à 3, 4 ou 5, environ 20 minutes de jeu. J'ai rencontré les deux frères ce week-end, c'était dans les allées du Festival International du Jeu à Cannes.
Chaque joueur va incarner une famille et il va essayer d'accéder au trône en fait, en essayant d'éliminer ses adversaires ou faisant des complots. On commence avec 7 cartes en main, ce sont des personnages avec un pouvoir qu'on va mettre devant nous et les activer au bon moment.
C'est un jeu avec beaucoup de bluff parce qu'on joue nos cartes face cachée et donc on peut les laisser cacher pour laisser croire à nos adversaires que peut-être notre assassin est à cet endroit alors qu'il est à un autre endroit de la table, etc.
Alors ce jeu Oriflamme est vendu 15€, il devrait être sous votre sapin de Noël en décembre et de nombreux...
C'est dans longtemps.
Oui mais vous pourrez le trouver aussi avant. Généralement l'As d'or se vend à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Un titre d'exemple, 1 200 000 boîtes de Unlock primées en 2017 ont été vendues. On souhaite le même destin à Oriflamme et aux frères Essling.
Et alors à part ce jeu où il faut prendre le pouvoir par la ruse et le sang, ce qui me plaît bien, on joue à quoi cette année Frédéric?
Bah écoutez, je vous propose de jouer aux nouvelles aventures d'Unlock, As d'or 2017, je le disais. Le jeu inspiré des escape rooms vous amène dans des mondes différents, et ça je sais que ça vous plaît aussi. Il y a 3 scénarios par boîte. Vous êtes par exemple plongé dans le laboratoire d'un savant fou à New York, votre cousin, ou lors de l'exposition universelle de 1900 à Paris, votre cousine Eva.
D'accord, merci.
Autour d'une table, il vous faut résoudre des énigmes. C'est un jeu coopératif, c'est la grande tendance du moment. On joue en équipe, l'adversaire c'est pas l'autre. aucun risque de finir le jeu en jetant le plateau et les cartes à la tête de son voisin. C'est peut-être rassurant de jouer à ce jeu avec vous, Mathieu. Je sais que vous êtes un peu mauvais joueur.
Qui vous a dit ça?
Voilà. Autre jeu coopératif. Autre jeu coopératif. Fiesta de los Muertos. Vous choisissez
la fête des morts.
Voilà. Vous choisissez un mot pour décrire votre personnage défunt. Chaque joueur a son mot et ce mot va passer de main en main. Chaque joueur doit le modifier. À la fin, on dévoile le dernier mot et il faut trouver à quel défunt il est associé. Rigolade garantie. Ah. Allez, un exemple. Par exemple, on pourrait choisir Einstein, mais on peut aussi choisir Bambi. Si je choisis Bambi, moi j'inscris forêt. Et vous? Allez.
Ah oui, il faut suivre. C'est comme un cadavre ski, en fait.
Forêt.
J'écris...
Maman.
Délicieux.
Oh non, Mathieu.
Mon Dieu, scandale. Scandale chez les véganes.
Il est horrible.
Et en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, Frédéric Michel, ce sont plus de 1000 jeux de société qui arrivent sur le marché.
Effectivement. Et pour les plus petits, c'est un dernier petit mot, il y a Attrape-Rêve, As d'Or. Des jeux d'enfants, les joueurs doivent utiliser leur sens de l'observation afin de choisir leur meilleur doudou qui effacera vos cauchemars.
Que c'est mignon ça. Merci Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 à Nice.
Europe 1.
C'est comme Pékin Express en termes de budget par jour, mais sans les 100 000 euros à la fin. L'équipée sauvage va entamer une deuxième heure. La compétition va s'intensifier autour de deux nouveaux concurrents. On va parler d'un footballeur qui a été un des premiers à faire son coming out dans les années 90. Et puis alors qu'elle vient de nous quitter, on vous parlera d'une femme dont vous ne connaissez peut-être pas le nom, mais qui était peut-être la plus grande mathématicienne du XXe siècle, Katherine Johnson, surnommée l'ordinateur humain. Le tout en présence de notre invité d'honneur, Stéphane Rothenberg, dont je découvre qu'il est copain comme cochon, ou plutôt copain comme cochonne avec Eva Rock, qui l'a suivi deux fois sur le tournage de Pékin Express.
Ça sentait la bœuf de partout.
Ah non, Eva, Stéphane, vous avez dit ce qui se passe à Katmandou, reste à Katmandou.
16h, 18h, l'équipe sauvage sur Europe 1. L'équipe sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Une couronne en plastique, quatre journalistes en carton. Un seul sera désigné chroniqueur du jour à l'issue d'un combat aussi fratricide que sanglant, dont seule votre culture G ressortira grandie. Une deuxième heure se profile, en coulisses, de nouveaux protagonistes s'échauffent. On va parler sport et science, et je continuerai d'interviewer Stéphane Rothenberg avec ce brio journalistique qui fait ma marque de fabrique. Pourquoi vous riez ? Brio journalistique qu'avait découvert votre confrère Denis Brognard il y a quelques mois alors qu'il venait nous parler du retour de Koh-Lanta. J'avais fait le mec au courant qui n'a pas loupé une saison. Hélas, en voulant faire une référence à une épreuve qui n'existait en fait que dans ma tête, j'ai dévoilé mon jeu et révélé à Denis qu'il y avait bien longtemps que je n'avais pas regardé Koh-Lanta, souvenez-vous. 20 ans qu'il prend un plaisir sadique à proposer à des types affamés toutes sortes de jeux pervers, poteaux, roulades, ingestion de larves gluantes.
J'ai adoré l'épreuve, c'est la première fois qu'on en parle, l'épreuve de la roulade.
Oui.
Celui qui va au bout en faisant le plus de roulades a gagné.
Si vous aimez les roulades et surtout les roulades de printemps, restez avec nous, on continue de parler de Pékin Express. Il est 17h sur Europe 1.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous êtes au cœur de la Ligue des champions des journalistes. Chaque après-midi, pour vos beaux yeux et surtout en l'occurrence vos belles oreilles, la crème de la crème du haut du panier des meilleurs journalistes d'Europe 1 s'affronte au service de votre savoir et de votre bonne humeur pour les départager, vous, bien sûr, via Twitter et notre invité arbitre aujourd'hui, Stéphane Rothenberg, pour le retour d'une nouvelle saison de Pékin Express. Est-ce vraiment une bonne idée d'aller à Pékin par les temps qui courent? Comme vous dites, Eva. Mais là où c'est malin, c'est que l'émission a déjà été enregistrée. Bien joué, Stéphane. On continue de parler de ce programme et de Top Chef, que vous présentez également. Simplement le temps de vous présenter nos deux derniers concurrents du jour. L'un est encore ivre de sa victoire de mercredi dernier, devant justement le chef étoilé Michel Sarran. Victoire à l'issue de laquelle il avait déclaré sobrement...
Oh, je peux faire une confidence? J'ai l'impression d'avoir gagné une épreuve à Top Chef.
Bonjour Jean-Philippe Ballas.
C'était pourtant vrai.
Aujourd'hui, bonjour. Peut-être bonjour une première victoire dans Pékin Express.
Allons-y gaiement.
Avec quel sujet, Jean-Philippe?
Je vais rendre hommage à une grande dame dont on a appris la disparition hier à l'âge de 101 ans. Elle était mathématicienne, elle était noire. Elle travaillait pour la NASA à l'époque de la conquête spatiale et de la ségrégation. Elle s'appelait Katherine Johnson.
À ses côtés, mon cher Stéphane Rothenberg, on peut dire que, comme avec les femmes, il sait se faire désirer. Et lorsqu'il revient, enfin, après de longues semaines d'attente, on ne peut qu'exulter. Oui, quand Anne et Eva ont appris qu'il était de retour, elles ont eu chaud au cœur. Lui-même a conscience de l'effet que produit son retour tant attendu.
Il y a des petits minous qui ont de la chance.
Sacré GG. Bonjour Jérôme Lacroix.
Il ressort régulièrement, les petits minous, faut savoir.
Minous toujours. Vous êtes notre expert sport, Jérôme. Et aujourd'hui, c'est une histoire à la fois édifiante et émouvante que vous nous proposez.
Oui, exactement. Je vous raconte l'histoire d'un homme, un footballeur anglais dans les années 80, un monstre de précocité. Il a finalement été ostracisé par tout le milieu et aussi par sa famille. Et il est aujourd'hui une figure de la lutte contre l'homophobie. Il est devenu à titre posthume. Il vient d'entrer au Hall of Fame britannique, le Panthéon du foot anglais.
Alors, la triste histoire du premier coming out dans le monde du football ou bien le portrait de probablement la plus grande mathématicienne de l'histoire du XXe siècle, quel sujet vaincra ? Réponse juste avant 18h. En attendant, je me tourne vers notre invité. Qui est pour vous Stéphane Rothenberg ? On est allé vous poser frontalement la question. Voici non pas un micro-trottoir, toujours monté pour cirer les pompes d'un invité dont normalement les berloutis brillent déjà suffisamment. Voici notre micro-trottrash. C'est la même chose, à la différence près qu'on a tout laissé.
Stéphane Rothenberg.
Ah bah bien sûr, bien sûr. C'est extraordinaire, il est génial. Hein.
Dynamique.
Ouais, très dynamique.
Il a l'air gentil, hein. Gentil dans le bon sens du terme.
Il est mignon. Oui, bien sûr, pas dire le contraire.
Il a les yeux bleus.
Il est beau gosse.
Pékin Express, le présentateur de Pékin Express.
C'est un des divertissements qui est le, un peu le plus réaliste, je pense, par rapport à tout ce qu'on peut avoir.
Très beau gosse, ouais.
Ah oui, on valide.
Peut-être quelqu'un dont la notoriété n'a pas pris plus d'importance que ça.
Bah, c'est comme Koh-Lanta et tout, moi je regarde, j'ai jamais regardé. Hein. Faut vraiment qu'il y ait rien pour que je regarde ça. Comme il n'y a rien.
Alors, globalement, Pékin Express est une émission qui a une super image. Hein. On l'entend dans ce micro-trottoir. Et les audiences sont toujours là, Eva ?
Ah oui, ça marche toujours.
Ouais, ouais.
Il y avait eu une petite interruption pendant deux ans.
Oui. Ah, c'était. Mais non, j'en avais été à signer résidence en Inde. J'ai été personnellement accusé d'espionnage. Donc ça avait un peu refroidi. Plus la pub qui n'était pas en grande forme ces années-là. Les émissions coûtent très cher.
Oui.
Et des audiences qui étaient limite. On n'a jamais eu de tôle. Jamais. C'est toujours soit génial, soit étiage moyen. Et quand ça, comme ça coûte très cher et qu'en plus on avait fini 10 jours en résidence surveillée, on s'était un peu calmé. Mais la chaîne n'avait jamais lâché les droits. Donc chaque année, elle payait pour pas que ça parte ailleurs, hein, comme ils ont fait avec Nouvelle Star. Et donc, dès le début, on m'a dit on repartira. On ne sait pas quand, mais on repartira.
Mais qu'est-ce qui coûte le plus cher, le voyage, tous les techniciens ou vous ?
Non, je suis sur M6, je vous rappelle, ce qui fait qu'il n'y a pas d'inflation envisageable de ce côté-là. C'est peut-être un peu mieux que chez vous, je ne sais pas, mais voilà.
C'est possible. 13 années de tournage pour Pékin Express, 5 continents, 35 pays traversés, 134 émissions, 129 600 km parcourus avec des locaux, 190 candidats. Est-ce que parmi tout ça, vous avez un top 3 de vos souvenirs ?
Alors, oui, alors c'est compliqué. Je dirais la saison 3, c'était, à l'époque, on faisait que des. Il n'y avait pas de. On faisait tout d'une traite. Maintenant, on fait des points aériens parfois pour changer les pays, c'est plus compliqué. Rio-Lima, on a traversé dans ce sens-là. Bon, je peux vous dire que c'est absolument fascinant. C'est incroyable. Et bon, visiblement, j'ai une direction pour l'Amérique latine parce que Quito, Ushuaia, vous voyez le truc. Hein, donc, d'un côté, c'est transversal, de l'autre côté, c'est longitudinal. Absolument fascinant, du début à la fin. J'adore être dépaysé, mais lorsqu'on est complètement paumé, c'est un peu spécial. Là, on est dans une culture mélangée avec effectivement les cultures locales et puis les cultures hispaniques. Absolument fascinant. Donc, c'est des paysages, des lieux. Et puis, effectivement, je ne sors pas violon, hein, mais c'est une aventure humaine un peu incroyable parce qu'on est une troupe, on part, on rentre pas
chez
nous.
C'est les mêmes des missions
alors,
d'émission.
Non, on essaie de réunir, faut former des gens, c'est très particulier. Donc, le producteur essaie toujours de renouveler 20% des gens, de prendre des gens jeunes qui nous amènent des choses, voilà. Et donc, on change. Mais oui, il y a des gens qui en ont fait, moi, 15. Et puis, vous savez, il y a des gens qui font même les versions des autres pays. Donc, il y en a qui font 45, 50 Pékin Express, qui changent de passeport tous les ans. Voilà, il y a des. Parce qu'il y a 14 nationalités différentes. Sur le tournage, il y a des Belges, des Américains, des Australiens.
Et il ressemble à quoi, le Stéphane Rothenberg, je sais pas,
alors,
belge
le
ou
mieux,
hongrois
c'est, le mieux, c'est la polonaise. Je peux pas vous m'empêcher de dire, parce que c'est la femme de l'homme le plus riche de Pologne. Elle vient, elle arrive en robe du soir et en talons, elle est extraordinaire, elle est fabuleuse. Elle a 3 voitures. Et parce qu'il y a ses fringues dans l'une, tout son staff dans l'autre, et elle toute seule dans la troisième. Moi, je suis, elle est extraordinaire. Elle est adorable. Hein. Et en revanche, une fois, elle a fait bienvenue à Hong Kong, alors qu'elle était à Singapour. Voilà. Donc, on est un peu dans
des
un truc un peu lunaire. Voilà. Mais elle est fabuleuse, elle est charmante. Et c'est vrai que moi, qui suis dans mon petit minivan, tu as pu voir ça, Eva, avec tout le monde, on est regroupé les bagages, on ne sait pas où les mettre. Et donc, voilà. Il y a un décalage. Mais voilà, c'est comme ça. Les animateurs de Pékin Express n'ont pas toujours le format. Voilà,
et vous pourriez le présenter ailleurs ?
Sur un autre pays ? Ouais. Bah, j'ai un accent, je parle quelques langues, mais là, je ne sais pas si je pourrais. En Pologne, je ne pourrais pas, en tout cas, même si je suis une d'origine polonaise. Mais je l'envie, cette animatrice qui se dépasse avec sa cour, sa suite, qui arrive en talons aiguilles et dans la boue. C'est génial, elle est fabuleuse. Et elle ne voit aucun décalage.
Ah non.
Elle considère que c'est tout à fait normal parce qu'elle se dépasse comme ça, jour et nuit. Voilà. Donc voilà, elle est fascinante.
Vous l'aimez dans Top Chef, mais vous le préférez avec un look baroudeur. Regardez Pékin Express ce soir sur M6. Stéphane Rothenberg est avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, même si vous n'aimez pas les maths, vous allez adorer cette histoire, celle de la plus grande mathématicienne du XXe siècle, une femme qu'on surnommait l'ordinateur humain.
C'est moi ? Non, c'était pas moi.
Ah non, je vous confirme, Eva, que c'était pas vous. Mais bon, c'était pas loin.
Europe 1, 16h-18h.
L'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Stéphane Rothenberg passe l'après-midi avec nous pour fêter le retour sur M6 ce soir de Pékin Express. Et Stéphane, vous êtes au beau milieu de la mêlée. L'équipe est sauvage, cette compétition qui est à l'image des Varrocks, c'est-à-dire...
cruelle et parfaitement inutile.
Battons plein, l'heure est venue d'écouter notre troisième prétendant à la couronne de chroniqueur du jour. Un journaliste que je qualifierais de...
parfaitement inutile.
Non, j'ai bon, de tout à fait indispensable à la rédaction d'Europe 1. Jean-Philippe Ballas, c'est avec un beau portrait de femme que vous allez tenter de l'emporter à nouveau dans l'équipe est sauvage.
Elle s'appelait Katherine Johnson, on a appris sa disparition hier à l'âge de 101 ans. Katherine Johnson, elle était mathématicienne à la NASA... à l'époque de la conquête spatiale et à l'époque aussi et surtout de la ségrégation. Elle était noire et son parcours exceptionnel, je ne sais pas si vous vous souvenez, son parcours avait été raconté dans un film qui s'appelait « Les figures de l'ombre ».
Il faut une calculatrice pour l'aérospatiale.
Katherine fera ça très bien. Tout ce qui est chiffre, elle en fait son affaire.
Il n'y a jamais eu de gens de couleur ici. Ne me faites pas honte.
Vous devriez être ingénieur.
Je suis noire et femme. Je ne vais pas envisager l'impossible.
Voilà, impossible, disait-elle. Seulement voilà, Katherine a une telle maîtrise des chiffres qu'elle va devenir, en quelques mois, la reine incontestée du calcul des trajectoires. C'est-à-dire que les astronautes, comme John Glenn notamment, les astronautes ne font confiance qu'à elle seule. C'est-à-dire qu'ils se méfient des ordinateurs, c'est un peu les débuts à l'époque. Ouais. On a des grosses bécanes, des gros IBM, mais les calculatrices de la NASA sont là derrière pour réviser tous les chiffres. Katherine Johnson, c'est un peu elle qui mène la danse. Alors ça n'empêchera pas, malgré tout, les humiliations. C'est la ségrégation, je le rappelle, à l'époque. Et ça aussi, c'est très bien raconté dans le film.
Où étiez-vous passé ?
J'étais aux toilettes, monsieur.
Aux toilettes ? 40 minutes par jour ?
Il n'y a pas de toilettes pour moi ici.
Comment ça, il n'y a pas de toilette pour vous ici ?
Il n'y a pas de toilette pour moi ici. Pour les gens de couleur, dans ce bâtiment, il n'y a pas de toilette. Et il n'y en a pas dans les autres, sauf au groupe Ouest, à 800 mètres d'ici.
Voilà, et on voit le personnage de Katherine Johnson pendant tout le film qui fait des allers-retours incessants sous la pluie comme ça pour aller aux toilettes. Il aura donc fallu attendre un livre, puis un film, il y a quelques années, pour que les États-Unis découvrent finalement l'histoire de ces calculatrices de la NASA. Katherine Johnson, elle va recevoir la plus haute distinction civile américaine, c'est la médaille de la liberté. Elle va la recevoir, cette médaille, des mains du président de l'époque, Barack Obama.
Catherine a été une pionnière qui a fait tomber les barrières de la race et du genre. Elle montre aux jeunes générations que chacun peut réussir et viser les étoiles.
Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, Katherine Johnson est souvent citée en exemple aux États-Unis. Elle était de son vivant, elle le sera encore plus désormais maintenant qu'elle est partie. Ce jour-là, à la Maison-Blanche, c'était l'une de ses très rares apparitions. Elle faisait très très peu de discours, Katherine Johnson. Elle parlait quasiment jamais. Elle aimait plutôt les chiffres, on comprend. Elle disait simplement que toute ma vie, finalement, je n'ai fait que poser des équations, je n'ai fait que répondre à des questions. Je l'ai fait du mieux que j'ai pu. Et elle l'a fait avec beaucoup d'intelligence et beaucoup, beaucoup d'humilité.
Et donc, c'est elle, par exemple, qui a guidé quand ils sont allés sur la Lune ? Elle était
La trajectoire de Neil Armstrong, notamment, la trajectoire de Apollo 11, c'est elle qui l'a calculée et vérifiée.
Et est-ce qu'on sait si aujourd'hui, ça existe encore, ce métier de calculatrice, ou bien les ordinateurs sont tellement, performants qu'on n'a plus besoin de gens, d'humains derrière pour vérifier les trajectoires ?
C'est ça qui est un peu dingue, c'est que vous vous rendez compte que le premier pas sur la Lune, c'était il y a 50 ans, ouais. Et le moindre téléphone qu'on a sur nos tables aujourd'hui
est plus
puissant que n'importe quel ordinateur. De l'époque. Fallait être un peu dingue hein, quand même pour partir dans les étoiles en ce temps-là.
Oui, c'est sûr que la probabilité de revenir vivant n'était peut-être pas très très grande. Merci beaucoup Jean-Philippe Ballas. Votre chronique mérite-t-elle les 3 points de la victoire ? La réponse tombera juste avant 18h.
Europe 1.
Qu'allons-nous regarder ce soir à la télé et sur les écrans ? En complément de Pékin Express, évidemment. Pas facile de décider dans la jungle des programmes. Heureusement, Eva Rock, l'aventurière du PAF, est là pour nous guider. Eva, que Stéphane connaît très bien. Je crois que pour vous, Eva, c'est avant tout...
une odeur particulière, mais finalement, qui n'est pas identifiable au premier... c'est essentiellement la moiteur. Oui. C'est très particulier. Oui. Ça peut rendre fou.
Ah, mais je vous confirme, ça peut rendre fou, surtout quand vous bossez avec elle au quotidien dans un studio fermé. Oui. Eva Rock nous guide dans les programmes télé, juste après Téléphone, un autre monde sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Il a survécu à 13 saisons de Pékin Express qui revient ce soir sur M6, mais surtout, il a supporté la mauvaise humeur d'Eva Rock quand il a fallu pioncer la belle étoile à 4300 mètres d'altitude sur le Kilimandjaro.
Oh putain, bande de gros cons.
Stéphane Rothenberg passe l'après-midi sur Europe 1. Une 13e saison de Pékin Express démarre donc ce soir sur M6. Est-ce que vous vous êtes déjà fait peur, pour vous, personnellement, sur l'émission ?
Franchement non, mais c'est vrai que j'ai eu un accident à un moment, il y a quelques années. Alors, je suis pas trop trouillard. J'ai plein de défauts, mais pas trop...
Oui, vous êtes comme moi, je sens, on fait partie de... On est les mêmes un petit peu.
Vous êtes sûr, vous êtes sûr
sur le tournage de l'émission Wild, vous vous êtes fait piquer quand même par une fourmi balle de fusil. Racontez-nous ce que c'est une fourmi balle de fusil.
La fourmi Bouna, alors c'est une fourmi qui effectivement est très agressive. Et la douleur que vous ressentez, c'est l'équivalent de la douleur que vous ressentiriez si vous étiez frappé par une balle, si c'était qu'elle dure 24 heures. C'est assez facile. Alors c'est extrêmement douloureux.
Ah oui, donc tout à l'heure, je vous ai demandé si vous aviez déjà eu peur ou pour vous et non, tout ça. Et en fait, non, vous avez juste oublié l'épisode de la balle de fusil.
Non, elle m'a piqué à travers la chemise. Ce qui fait que j'ai quand même pris de la morphine pour que la douleur soit un peu supportable. Mais c'est vrai que c'est très particulier. C'est comme si on vous pinçait très très fort, non-stop pendant une journée. Ah. Donc au début, ça va. Et puis après, ça devient entêtant et insupportable. Mais j'ai eu la chance. Je pense que si effectivement c'était sur la... Mais bon, le rédacteur en chef, lui, s'est fait piquer 7 fois. Donc,
c'est vraiment un chat noir. C'est pas possible.
D'un coup, il est tombé sur. Elles sont sept à être montées et clac clac clac, elles l'ont piqué. Voilà. Donc la douleur était pour lui vraiment très très difficile à supporter. Mais il est là, hein, en pleine forme.
Qu'est-ce que si vous deviez, si M6 vous disait tu dois choisir une émission, vous garderiez Top Chef ou Pékin Express ?
C'est très dur parce que c'est vrai que j'adore les deux. Allez, pour refuser de choisir, je prendrais l'antériorité, c'est-à-dire Pékin parce que c'est plus ancien. Mais vraiment, c'est très différent. Et l'une, je rentre chez moi tous les soirs et je mange bien. L'autre, je mange très mal souvent.
Et je rentre pas chez moi.
Et je dors dans des lits à plus de lits. Mais vous savez, par exemple, dans certains hôtels, je pensais pas que c'était encore possible, parce que c'est des hôtels de voyageurs. On change les draps toutes les semaines. C'est pas une question de client, c'est le dimanche. On change les draps. Débrouillez-vous. Bon. Et ou alors, en Russie, par exemple, il y a encore des hôtels où on vous dit il y a un lit de disponible dans la chambre 12, deux lits dans la chambre 13, et vous arrivez, donc il y a des gens qui dorment. Bon. Donc ça, c'est très un peu. C'est les hôtels, c'est pas des personnes de jeunesse. Bon. Donc voilà, donc tout ça, c'est. Mais à la fois, il y a une forme d'addiction parce que c'est la découverte et c'est le voyage. Donc je prendrai Pékin, mais voilà, en prenant le réflexe de l'antériorité. Mais sinon, voilà, les deux sont agréables.
Il faut faire un combo Top Chef Pékin.
C'est-à-dire.
Bah, je sais pas, on pourrait imaginer aller faire des épreuves gastronomiques.
Oui, faire de la cuisine dans l'hôtel où ils changent les draps une fois par semaine.
Voilà, par exemple.
Super, merci pour cette intervention Eva. Et justement Eva, puisque vous avez pris la parole, gardez-la. Saviez-vous Stéphane Rottebien qu'on perd désormais, c'est une étude de l'université d'Oxford, on perd désormais 17 minutes par soir à s'engueuler avec son conjoint pour savoir ce qu'on va regarder à la télé ou sur Netflix. Heureusement, il y a désormais Eva Rock et sa chronique 17 minutes de gagner.
Ce soir, c'est facile. C'est une évidence. Ce soir, c'est M6 pour Pékin Express, évidemment, émission pour laquelle je reconnais avoir une affection particulière. Mais il y a deux autres programmes qui ont retenu mon attention et qui sont à voir en replay. Le documentaire Daria Marx, Ma vie en gros, c'est sur France 2 à 22h40. C'est un documentaire très réussi pour dénoncer les clichés sur les gros et lutter contre la grossophobie. C'est un film extrêmement bien écrit, porté par des filles dont Daria Marx, qui ne sont pas dénuées d'humour. Vraiment, je vous le recommande. France 2, 22h40. Elle était d'ailleurs l'invité de Philippe Vandel ce matin, vous pouvez écouter l'émission en replay. Philippe qui recevait aussi hier matin McFly et Carlito. Ce soir sur TMC à 21h15, ce sont donc deux youtubeurs suivis par 5 400 000 abonnés qui débarquent à la télévision. Carlito, fils de Guy Carlier, qu'on embrasse au passage.
Voilà. Chaleureusement.
Et les deux garçons débarquent avec une série de jeux sketch comme ils peuvent en faire sur le web. Alors concours d'anecdotes par exemple, c'est à vous de dire si l'histoire qui suit est vraie ou pas. On va tester par exemple dans l'émission, c'est une histoire qui est racontée par Danny Boone. Il est à Paris dans un café quand tout à coup...
Il y a un monsieur qui rentre dans le café égorgé.
Non mais n'importe quoi.
Je suis secouriste.
Ben, tu es Danny Boone.
Oui, je sais. Mais dans le Nord, j'avais suivi des cours de secourisme, mais j'étais devenu secouriste actif. J'étais le plus jeune secouriste de France. Et donc, ça m'a aidé plusieurs fois dans la vie. Il aurait sauvé
la vie de cet homme. Est-ce que, d'après vous, c'est une histoire vraie ou pas?
Oui, moi je dirais vrai.
Eh ben oui, c'est vrai.
Parce que ça s'invente pas vraiment. Enfin, c'est un peu comme ça, peut être un peu glauque, un peu triste.
Il faut que vous écoutiez l'histoire jusqu'au bout, mais elle est assez incroyable. Je l'ai coupée là. Elle est un peu longue, l'histoire en l'occurrence, mais. Voilà, franchement, on est bluffé, on écoute jusqu'au bout. Alors, réussi ou pas cette première émission pour les deux youtubeurs, j'avoue que je suis un peu déçue. Parce qu'en fait, les idées de jeu, elles sont plutôt excellentes. C'est classique, mais c'est drôle, la séquence action ou vérité, notamment avec Maurice Barthélémy et Pierre-François Martin Laval, mérite vraiment des tours. Mais
j'imagine, oui.
Voilà, mais il y a un souci de réalisation et de moyens. C'est-à-dire que les formats YouTube où le temps n'a pas réellement d'importance, vous pouvez traîner en longueur, ça fonctionne. En télé, je trouve que ça marche moins bien. Il faut quand même du rythme et puis surtout une réalisation qui servent le propos. Et là, j'avoue que les séquences, alors je précise toutefois que TF1 ne nous a pas montré l'intégralité de l'émission, mais de ce que j'ai vu, je trouvais que ça traînait un peu en longueur, c'est dommage.
Si vous voulez une émission avec plein de pognon dedans, Pékin Express ce soir sur M6, c'est encore mieux. Ouais. Merci beaucoup Eva Rock, c'était 17 minutes de gagner.
Europe 1.
Il a été le premier joueur de foot professionnel à faire son coming out dans les années 90. Son histoire est édifiante, c'est Jérôme Lacroix qui nous la raconte. Jérôme Lacroix, un journaliste qui nous a habitués à l'excellence, même s'il reste humain et commet parfois certains petits lapsus.
Il sera question de financement des lieux de culte, mais aussi de formation des imams.
Oui, à tout de suite avec GG Lacroix.
Europe 1, l'équipe est sauvage. 16h, 18h. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Quand l'allégresse et le savoir se pécho, vous écoutez l'équipe est sauvage. Deux heures pour rire et découvrir en compagnie d'un invité qui prend un plaisir sadique à noter les journalistes d'Europe 1. Aujourd'hui, Stéphane Rottenberg qui présente sur M6 à la fois Top Chef et Pékin Express, mais pas en même temps. Vous êtes un des animateurs les plus sollicités d'M6 et pourtant, vous dites, je suis toujours persuadé que tout s'arrête fin juin. Ça fait 20 ans que je me dis que ça va se finir fin juin. C'est encore vrai aujourd'hui, ça date de 2018.
J'ai eu un rendez-vous la semaine dernière pour me demander de prolonger pour beaucoup de temps. Donc c'est vrai que du coup, un peu moins, mais ça date de la semaine dernière du coup. Non, mais alors là, après, empiriquement, j'ai quand même vu les gros succès d'audience de ces derniers mois. Donc, bon, j'étais moins stressé que d'habitude. Enfin, c'est pas vraiment stressé, une sorte de fatalisme. Je suis un ancien pigiste de presse écrite.
Ouais. Hein.
Et donc, j'ai gardé ça. Et c'est vrai que, voilà, j'ai pas forcément, oui, c'est possible. Et surtout, ça fait quand même longtemps que je roule ma bosse. C'est très, très dur de tenir 20 ans, 25, 20 dans ce métier.
Ils sont très rares, comme vous, à tenir.
Non, mais vraiment, hein, c'est pas si facile. Voilà, à chaque fois, je me dis, oui, c'est possible. Je suis encore. J'ai vieux contrats, on était quand même pas trop mal payé, etc. Donc il y a plein de risques possibles.
Mais quand vous dites que vous avez eu un rendez-vous la semaine dernière pour perdurer...
Avec mon patron, quoi.
Mais oui, mais combien de temps que vous dites longtemps pour y rester bon, longtemps
on va, on m'a dit, ouais, on m'a dit, est-ce que tu veux rester 5, etc. Donc voilà,
ça
démarre, quoi. Oui. Les discussions démarrent, mais je me doutais, hein, quand on a bloqué le déjeuner, je me doutais que c'était un peu pour ça. C'était avec le grand patron, tout ça. Bon.
Après, on bloque des déjeuners et puis on est viré.
Ah oui.
ça arrive, on fait passer ça sur un petit saumon.
Exactement. Et oui. J'ai un pote qui a eu exactement la même chose. Qui a eu le déjeuner, il ne savait pas et c'était effectivement au revoir. Bon. Donc, voilà.
Et souvent, c'est au moment du café. Hein.
Oui.
Qu'on l'apprend. Ouais, pour pas gâcher tout le repas.
Là, c'était effectivement comme je prends pas de dessert avant de partir sur Pékin, j'essaie de. Donc, ça a été avant.
Alors, lui, il a seulement 5 ans de métier, tout peut s'arrêter très vite. Mon cher Stéphane Rottenberg, c'est avec une certaine fierté que je vous présente à présent un de nos meilleurs journalistes. Jérôme Lacroix, alias Magic GG, est notre ultime concurrent du jour et vous allez voir, pas des moindres. C'est un journaliste qui ne se contente jamais de l'info brute. Il faut toujours qu'il la décortique et son analyse débouche souvent sur de vraies questions.
Coronavirus, vol à main armée de papier toilette à Hong Kong.
Les habitants se sont rués sur le papier hygiénique par crainte d'une pénurie en raison du coronavirus. Et pourquoi ça donne la diarrhée maintenant ?
Bien vu GG, il faudra enquêter là-dessus. Aujourd'hui, c'est une histoire bouleversante, très très loin de cette histoire de papier toilette dont vous nous parlez. C'est une histoire qui se passe en Angleterre.
Cette scène, il y a 40 ans, quasi jour pour jour. Un footballeur, un gamin de 18 ans marque un but qui sera élu quelques mois plus tard, but de l'année 1980. En Angleterre, le commentateur s'en étouffe presque, une sublime reprise de volée, frappée en pivot depuis l'extérieur de la surface, un but de PlayStation. Le gamin tireur, il joue dans le modeste club de Norwich, tout à l'est de l'Angleterre. Il marque ici face au grand Liverpool. Il s'appelle Justin Fashanu. Je vous raconte l'histoire de cet immense espoir du foot anglais et mondial, adulé et puis détesté, conspué par certains, une pression qui le conduira au suicide à peine 37 ans en 1998. Justin Fashanu, anglais d'origine nigériane, il est si bon dans les années 80 qu'en 1981, il est transféré de Norwich à Nottingham Forest, à l'époque, pour les connaisseurs, double champion d'Europe en titre, un transfert contre la somme d'1 million de livres pour l'éternité. Il est le premier joueur noir à être acheté pour un tel montant.
Mais c'est là que sa vie bascule.
Oui, à Nottingham, il se retrouve confronté à l'entraîneur de Nottingham, Brian Clough, moi, coach et méchant, qui ne supporte pas Justin Fashanu. Les humiliations sont quotidiennes à l'entraînement. L'entraîneur l'insulte, gonzesse, tapette, pardonnez-moi pour ce mot horrible, le boss britannique, il a découvert que la star fréquente des bars gays en ville. Il finit par lui interdire les entraînements. Ben oui, Justin Fashanu,
Il est homosexuel. Il est alors très marqué par cette stigmatisation. Sa carrière s'effondre, suivront 10 ans de multiples exils dans des championnats mineurs. Alors, il décide de le dire. Un matin d'octobre 1990, ce titre à la une du tabloïd The Sun, Justin Fashanu confesses « I am gay ». Courage, mais scandale aussi à la une pour certains. Voilà Justin Fashanu, premier footballeur professionnel en activité à révéler son homosexualité. Mais dès lors, il est ostracisé par le milieu et aussi par sa famille, notamment son propre frère cadet John, avec qui Justin a grandi en famille d'accueil. Footballeur, lui aussi, ce petit frère à Wimbledon, équipe surnommée le Crazy Gang, le gang des dingues, des durs, des bad boys. Au moment du coming out, ce petit frère dira « Justin, il n'est pas vraiment gay, il veut juste qu'on parle de lui ». En réalité, il est furieux parce que juste avant la révélation, il a payé son propre frère 75 000 livres, 100 000 euros à l'époque, je cite, pour qu'il la ferme. Alors soyons clairs, Justin Fashanu, ce n'était pas un saint, il aimait la baston, il aimait les bagnoles, il a mené une vie débridée, surtout dans ses dernières années. Il avait d'ailleurs monnayé sa confession, son coming out dans The Sun. En 1998, c'est seul et accusé de viol par un jeune mineur qu'il finit dans un garage d'un quartier malfamé de Londres. On retrouve son corps pendu à un câble électrique, il s'est suicidé et dans une lettre il écrit « Je préfère mourir plutôt que causer encore plus de tristesse à mes amis et ma famille ».
Et aujourd'hui, il est devenu une figure de la lutte contre l'homophobie.
S'il savait que chaque mois de février, c'est en Angleterre la Justin Campaign, campagne annuelle de lutte contre l'homophobie qui porte son prénom. S'il savait que sa nièce a créé une fondation à son nom de famille qui lutte contre les discriminations, toute homophobie, racisme. S'il savait qu'il était désormais au panthéon des sportifs britanniques, le Hall of Fame, il y est entré mercredi dernier. Jour de son anniversaire, il aurait eu 59 ans. Alors, il est aussi un exemple pour les footballeurs gays en activité qui se taisent encore aujourd'hui partout dans le monde. Même si la tendance, il faut le dire, est vraiment à une prise à bras-le-corps de tous les délits de la part des instances mondiales, il y a encore beaucoup de travail.
Ah ben voilà, ben j'allais faire une réaction qui n'est peut-être pas juste en fait. J'allais vous dire, ça paraît, alors l'histoire est terrible, mais ça paraît tellement loin, ça paraît fou, ça paraît presque risible. Mais en fait, à la fin de votre papier, je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, il n'y a pas tant de footballeurs qui assument leur homosexualité ouvertement et qui communiquent là-dessus. Donc peut-être qu'il y en a même qui la taisent, effectivement, encore aujourd'hui.
Énormément, surtout dans le foot. Dans les autres sports, c'est moins vrai, mais c'est vrai que dans le foot, c'est encore un sujet très, très, très tabou. Et le problème de l'homophobie, il faut le saluer, est de plus en plus vraiment pris à bras-le-corps par les instances internationales.
Eh bien, merci beaucoup Jérôme Lacroix. C'était pas la chronique la plus drôle du jour, mais c'était une des plus intéressantes. Est-ce qu'elle mérite néanmoins les trois points ? La réponse ne va plus tarder maintenant.
Europe 1.
Une fois de plus, chers auditeurs, je le sens, votre journée n'a pas été facile. Votre patron s'est encore montré relou. Vos collègues ont mal divisé l'addition du déj et vous avez encore été lésé. Et là, vous venez de racler le bas de la punto sur un dodane et vous ne pouvez réprimer un...
Putain de saloperie de dodane de merde !
Bon, vu l'état de nervosité qui est le vôtre, je vais pas tout de suite vous annoncer que vous avez en plus oublié de faire les courses pour le dîner de ce soir. Mais je vais faire en sorte que Delice in Extremis, notre recette de dernière minute, vous tire de ce mauvais pas. A tout de suite.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipé sauvage. L'équipé sauvage sur Europe 1, 16h, 18h, Mathieu Noël.
L'équipé sauvage est entrée dans le Money Time. Bientôt, l'un de nos quatre journalistes sera sacré chroniqueur du jour sous l'œil de notre invité d'honneur Stéphane Rothenberg qui jauge nos champions.
C'est fascinant à regarder, hein. Un petit peu comme quand on peut regarder chez nous un bocal de poisson rouge.
Oui, lequel de nos valeureux poissons rouges l'emportera ? Il vous reste encore quelques minutes pour vous décider, Stéphane. Alors, Stéphane Rothenberg, on vous retrouve donc dans Pékin Espace ce soir, mais aussi chaque mercredi dans Top Chef.
Oui.
Et la question que tout le monde se pose à force de vous voir dans cette émission, c'est si vous nous invitez chez vous, est-ce que vous êtes un fin cordon bleu ?
Non, mais je trouve un très bon restaurant pour qu'on se régale.
Cette année, la finale a visiblement été un peu bousculée dans ce qu'on a appelé l'affaire de la gastro-entérite. Cette 11e saison est déjà entièrement enregistrée et la finale a failli ne jamais avoir lieu, comme le révélait le Parisien, car un candidat ayant contracté une petite gastro risquait de contaminer tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Et surtout, l'enjeu financier devait être énorme dans une émission coûte très cher.
Le directeur financier, je l'ai vu s'enfoncer dans le sol.
Il s'est liquéfié aussi, oui. Si j'ose dire.
Non, mais oui, bah, là, vous avez le médecin, vous avez un candidat qui dit qu'il n'est pas bien, le médecin arrive... le met en forme, mais il dit en revanche, il va contaminer tout le monde. Voilà. Et la finale, vous faites à manger pour 100 personnes.
Donc tout ça est parti à la poubelle.
Non, parce qu'on a la Croix-Rouge, on donne, on fait les dons à la Croix-Rouge. C'était pas l'enjeu. La seule chose, c'est est-ce qu'on tourne ou pas. À un moment, on s'est même réfléchi, on s'est dit est-ce qu'on change le concept de la finale et le finaliste ne devient que chef de brigade, ne touche à rien et donne nos instructions aux autres. Enfin, c'est un peu bizarre. Mais c'est le directeur financier qui a trouvé l'idée. Hein. Il faut tourner. Voilà. Et objectivement, on peut pas tourner. Donc il y a 120 personnes, pareil. Hein, tous les candidats, tous les chefs à recaler, trouver la date, le lieu.
Le lieu, parce que
gens.
C'était prévu dans un palace, voilà, le Georges V, pour ne pas le citer.
Ouais. Un enfer logistique, un enfer financier. Là, vous avez le producteur qui dit non, mais moi, la finale, elle ressemble à une finale, on ne va pas changer le truc. Et le directeur financier a vraiment essayé de trouver des solutions pour dire il faut tourner les enfants, on peut pas. Il n'y a pas un mec malade qui va arrêter la machine de guerre. Et si. Voilà.
Donc, voilà. C'était alors, une première quand même. Hein,
c'est une première, oui. Et alors, je pense que nous sommes fâchés avec notre assureur pour les 10 prochaines années.
Les autres, ça sera plus cher la prochaine saison.
Il a dû payer. C'était dans les heureusement, c'était dans les clauses. Et donc, il a signé le chèque.
Voilà. La clause gastro a fonctionné. On salue votre assureur. Il gère Top Chef d'une main, Pékin Express de l'autre. Stéphane Rottenberg, le Vishnou du PAF, passe l'après-midi sur Europe 1. Europe 1. Si comme moi, vous n'êtes pas omniscient en cuisine et que comme Stéphane Rottenberg, lorsqu'on vous sert un suprême de poulet, vous vous exclamez...
Ça, c'est le poisson. Dans le genre camillo.
Pour votre dîner de ce soir, il serait peut-être judicieux de vous en remettre à un professionnel. Ça tombe bien, Olivier Pouls arrive avec Délices in Extremis, la recette express qui chaque soir vous sauve la mise. Ce sera juste après The Doobie Brothers, Long Train Running sur...
16h-18h sur Europe 1, l'équipe sauvage. Mathieu Noël.
L'équipée sauvage touche à sa fin, vos estomacs commencent à gargouiller, vos enfants tirent sur votre veste en murmurant une larme à l'œil « J'ai faim, papa !» Votre flemme guide automatiquement votre main vers le frigo, vous savez que dort une boîte de Knacky Balls. Mais dans un sursaut d'orgueil, votre conscience intervient. Pack de Knacky ce soir vous faites la cuisine. Encore faut-il avoir une idée de recette, c'est là qu'intervient votre sauveur. Il est comme ses plats, croquant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Voici Olivier Pouls. Bonjour Olivier.
Bonjour Mathieu, bonjour Stéphane, bonjour tout le monde.
Qu'est-ce que vous nous concoctez ce soir Olivier?
Dans un instant, je vous emmène à Pékin, puisqu'il est question de Pékin Express, donc on va parler de cuisine chinoise, je vais vous faire des nouilles à la chinoise, mais j'imagine quand même, Stéphane Rottenberg, que pendant tous ces mois, ces semaines de tournage, vous avez dû vivre des aventures gastronomiques assez incroyables là-bas.
En général, j'adore déguster les spécialités locales, mais toujours les trucs un peu étranges. Et Dieu sait qu'en Chine, il y a de quoi faire.
Ah oui, c'est sûr.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez mangé de plus improbable?
Alors, c'est pas vraiment chinois, mais alors moi j'adore les œufs en général. Je trouve que les Asiatiques, vous savez, nous les œufs, on...
les œufs de 100 ans.
Voilà, les œufs de 100 ans. Je sais pas si vous savez.
Qu'est-ce que c'est que ça, hein?
Alors c'est les œufs qui ont fermenté 3 mois. Ouais. Du coup, le blanc devient vert, le jaune devient noir.
T'as un goût un peu soufré.
Oui, c'est un petit peu comme notre roquefort. C'est-à-dire qu'il ferment.
Vous bien sûr,
oui. Moi, ça me choque pas. Bien. Ça, oui. Exactement.
Mais si vous le mettez
vous
dans l'eau,
ça sent l'ammoniac.
Ça coule pas.
Le truc le plus spécial, et pareil, c'est pas chinois, c'est plutôt au Cambodge, en Indonésie, etc. C'est le balut. C'est-à-dire, vous savez, c'est les œufs où le poussin est en train presque de sortir.
Voilà. Et là,
on cuit et on vend ça partout. Les gens mangent ça comme des bonbons. Au début, c'est vraiment un vertige. C'est-à-dire que vous avez le truc, ça sent très fort. Et puis, vous savez qu'à l'intérieur, il y a... Voilà. Et au début, franchement, j'avais du mal. Bon. Et puis, au fond, vous mangez un poulet. Hein. Donc, ça change quoi.
Oui, c'est vrai que ça.
Donc, et en fait, c'est pas mal. Hein.
Oui, bon, ben, je vous ai préparé la recette, du poussin en train d'éclore. Donc,
et grâce à Stéphane, au Cambodge, j'ai quand même mangé un plat typique à Phnom Penh, qui était l'araignée. L'araignée grillée.
Oui. La migale. Hein.
Oui, la migale.
Migale.
Mais c'est très... quel goût, la migale?
Alors, ils la font griller, frire, donc ça n'a pas de goût.
Il faut savoir que les insectes, en général, n'ont pas tellement goût.
Oui, mais là,
moi, ce qui m'est arrivé, c'est effectivement, en les ébouillant quelques secondes, et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour la mienne, en tous les cas, celle que j'ai mangée, les pâtes, ça n'a rien, c'est du gras, et le corps, lorsque j'ai croqué dans le corps de la migale, c'est quasiment le point, il y avait encore les petites araignées, parce que c'était une femelle, qui étaient encore vivantes, et qui ont couru sur ma main. Il a fallu que je les mange.
Au secours. Au secours. Donnez-moi
Qu'est-ce
une tente d'oxygène. Je ne me sens pas bien.
Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse?
Oui, je ne sais pas, Olivier. Donnez-nous une recette, mais j'ai plus faim.
Non, je voulais vous parler de nouilles chinoises, parce que vous savez que les nouilles, les pâtes, on pense que ça provient d'Italie, ce sont les Italiens qui les ont inventées, mais pas du tout. Les Chinois, bien avant eux, il y a 4000 ans, faisaient déjà des nouilles, et c'est Marco Polo qui les a ramenées de Chine et ensuite qui les a popularisées
Merci
en Italie.
Merci Alain Decaux. La recette.
Alors, quelques nouilles chinoises, c'est très facile à faire. Hein. Donc, des nouilles chinoises qu'on achète dans les épiceries asiatiques, c'est des nouilles qui cuisent en général un petit peu plus vite. C'est des nouilles au blé aussi, donc vous faites cuire vos nouilles. Et puis l'idée, c'est de les faire sauter. Donc on va préparer tous les petits légumes qu'on trouve en ce moment, alors oignons, carottes, un peu de brocoli, on peut mettre des champignons, on peut mettre quelques pousses de soja. On va faire rissoler ça dans un tout petit peu d'huile de sésame. Quand c'est bien chaud, quand c'est bien rissolé, on déglace avec la sauce soja, on remet les nouilles dedans, on fait bien sauter ça et on termine par une petite pointe d'épices ou une petite pointe d'herbe si on en a envie. C'est extrêmement simple, c'est vraiment goûteux
et c'est rapide,
et, c'est rapide et léger.
Ça, c'est vraiment délice in extremis.
Et ben
oui,
voilà.
La cuisine asiatique, vous savez, c'est surtout, c'est nous on mijote souvent, eux c'est du saisi, ça va très, c'est extraordinaire. C'est vraiment, j'adore la cuisine asiatique.
Voilà,
c'est,
et
c'est
au dernier moment, une poignée d'araignées et c'est.
Sans oublier les bébés araignées qui grouillent encore. Merci Olivier Pouls, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1. Olivier, pour conclure, quelque chose qu'on ne sait pas de vous et que vous seriez susceptible de mettre en avant sur votre profil Tinder.
J'adore les cornichons avec la raclette.
Merci.
Europe 1.
Leur souffle se fait court, leur pouce s'accélère et le nôtre avec. Qui sera élu chroniqueur du jour? Qui gagnera un Pékin Express en aller simple avec une extension pour Wuhan All Included?
Oh,
attention Stéphane Rottenberg, pour gagner, certains journalistes comme Jean-Philippe Ballas sont prêts à tout, même à acheter le vote de l'invité en lui offrant un souvenir de valeur volé dans le studio.
C'est la bonnette de Mathieu Noël.
Oh, je comprends les invités, c'est une manière, un magnifique souvenir.
16h, 18h,
l'équipe est sauvage sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
Ils se sont battus comme des chiffonniers au service de votre culture G. L'heure est venue de découvrir qui, parmi nos quatre journalistes, a été élu chroniqueur du jour. Des journalistes parmi lesquels l'ambiance n'est pas aussi délétère qu'on pourrait l'imaginer. Au contraire, en fait, c'est un peu comme dans Pékin Express. Compétition le jour et puis, le soir venu, comment dire ça, Stéphane?
Des liens se lient,
oui.
Parfois même entre les caméramans,
oui, oui.
Les journalistes,
oui,
etc.,
oui.
etc. Ça peut même arriver entre nous qu'il se passe des choses.
Oui, oui, oui,
ce
oui,
qui
oui.
se passe sur Pékin Express reste sur
bien,
Pékin
bien
Express.
Bien sûr, Manu, c'est pareil. Nous, c'est la même chose, hein. Mais avant les plaisirs de la troisième mi-temps, il reste une épreuve, le quitte ou double. Nos journalistes ont 10 secondes pour vous convaincre de voter pour eux. Jérôme Lacroix, pourquoi est-ce vous qui devriez repartir avec la couronne aujourd'hui au-delà du fait qu'elle vous irait bien?
Votez pour moi, s'il vous plaît, Stéphane, sinon je chute au classement et là, c'est Pétrin Express.
C'est bossé.
Oui, bah après, bon, est-ce qu'il faut bosser dans ces cas-là? Ou jouer plutôt la spontanéité? Je ne sais pas. Jean-Philippe Ballas, pourquoi voter pour vous?
Bah, y a des exemples dans la vie et Catherine Johnson en était un bel exemple.
Oh mais il n'y a pas de jeu de mots là. Non. On est un peu déçus, du coup c'est un peu déceptif. Anne Le Gall, pourquoi voter pour vous?
Oh là là, attention. Parce que quand on a parcouru comme ça 35 pays sur 5 continents, qu'on a mangé des migales, qu'on s'est fait piquer par des fourmis vénéneuses, il faut revenir au concret. Et donc je mise sur le côté décalé de mon sujet sur les dates de péremption.
Très bien.
J'ai pas trop compris ce que c'était les fourmis vénineuses, mais des fourmis extrêmement venimeuses, elles sont venineuses, on ne sait pas trop. Nicolas Carreau, pourquoi voter pour vous?
Parce que j'ai cru comprendre en fait en vous regardant sentir les livres que vous étiez un peu connaisseur, et là je vous ai quand même ramené du Romane Conti, du Gévrey Chambertin que je suis allé chercher dans ma cave personnelle.
Voilà. Mais vous ne les avez pas offerts, vous avez tout embarqué.
J'ai fait goûter.
Vous avez fait goûter et c'est déjà pas mal. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs, s'il vous plaît.
Vous votez tous les matins, évidemment, sur Twitter pour, a priori, quelle est la meilleure chronique, celle sur laquelle vous misez. Et ils ont tous misé sur Jean-Philippe Ballas aujourd'hui.
Ils ont misé sur Jean-Philippe Ballas. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Moi aussi, j'ai voté pour Jean-Philippe Ballas.
Oh oui.
Et donc, attention.
Oh là là, il a fait, déjà 3
points. Ça fait déjà 3
points.
Vous avez vu le temps que j'ai mis pour calculer 2 plus 1
quand
même.
C'est vrai.
Voilà où on en est quand même. Ah ouais. Quand je dis que j'étais pas bon en maths, c'était
pas
une légende.
D'une mathématicienne en plus.
Mais vous le savez ici, c'est à l'invité que revient la lourde responsabilité de trancher. Stéphane Rottenberg, qui selon vous mérite d'être élu chroniqueur du jour?
J'explique?
Ah oui, bien sûr.
Ok, bon. Alors, bien évidemment, il y a des principes de galanterie qui fait que là, j'irai vers Anne. Bon. Mais oublions la forme, vous étiez tous très bien. Parlons du fond et du choix du sujet, puisqu'on est entre journalistes. Là, pardon Anne, le sujet conso, je trouve un peu tarte à la crème, un peu marronnier.
Allez,
déjà vu, au revoir.
Clac.
Merci.
Allez, bon, je... Au revoir, merci.
Voilà. voilà, conso quoi. Nicolas, très branché, très parisien, peu intelligent.
Trop
branché. Ouais, bon,
j'ai ramené un livre de la campagne.
Oui, je sais, mais le côté un peu.
J'ai ramené
un
livre en plus.
Oui, je sais, mais le côté, les livres ont une odeur, enfin ça sent un peu, il y a un côté un peu clivant. Bon, voilà.
Ouais, on n'est pas sur Paris 1er.
Ouais, voilà, c'est ça. Il y a un côté dernière page de Libé, bof, pas moi. Donc, et puis c'est vrai que derrière, il y avait deux sujets d'une puissance qui étaient difficiles. Voilà. Par contre, je reconnais qu'au niveau de la gaudriole, on descend d'un cran.
Ah, là, oui, clairement.
Donc, du coup, on est sur les sujets profonds. Voilà. avec des grands sujets très lourds, bon, voilà, voilà. Et à la fois très noble. Donc voilà. Donc difficile, voilà, entre deux causes. Si j'en choisis une, on va m'en vouloir de ne pas avoir choisi l'autre. Juste par esprit de contradiction avec les auditeurs et avec Mathieu, je vais choisir Jérôme parce qu'effectivement c'est un sujet aussi qui mérite d'être mis en évidence. Et donc par esprit de contradiction, cher Mathieu, je ne vais pas être d'accord avec toi.
Et donc nous avons aujourd'hui, égalité. Ça arrive, deux gagnants, oui. Égalité, Jean-Philippe Ballas et Jérôme Lacroix. Une couronne pour deux. Une couronne pour deux, ça pourrait être le titre d'un théâtre de boulevard,
oui.
Une pièce.
On a eu peur.
Sur les gros boulevards.
Allez-y, finissez l'émission.
Vous pensez une couronne pour deux.
C'est l'histoire de dentiste. Voilà.
Bon, écoutez, je ne sais pas. En tout cas, Jérôme Lacroix et Jean-Philippe Ballas remportent la 120e journée de l'équipée sauvage. On remercie notre invité du jour, Stéphane Rottenberg, que vous retrouvez globalement tout le temps sur M6, dans Pékin Express ou dans Top Chef. Pékin Express qui redémarre ce soir. Merci également à mes équipiers du jour, Eva Roque, Anne Le Gall, Nicolas Carreau, Jean-Philippe Ballas, Jérôme Lacroix et Olivier Pouls. L'équipée sauvage revient demain 16h. Tout de suite, restez sur Europe 1, écoutez Le Monde Changer avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs pour votre grand journal du soir. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Mathieu, bonsoir à votre équipée sauvage et merci. Demain vous recevrez Laurent Deutsch dans votre studio. Très belle soirée à vous Mathieu.